Vous écoutez France Culture.
L'essai et la revue du jour avec vous, Jacques Munier. Bonjour. Bonjour, Jacques. C'est l'essai donc de Zygmunt Bauman. Les riches font-ils le bonheur de tous? Et c'est publié chez Armand Collin.
Oui, c'est la fameuse théorie du ruissellement qui pose problème aux penseurs de la société liquide. Ce qui crée de la richesse pour eux-mêmes en ferait bénéficier tous les autres grâce aux emplois induits, à la croissance générée, aux progrès réalisés. C'est pourquoi, pour récompenser et retenir les hommes exceptionnels qui produisent ces richesses en cascade, les entreprises leur versent des salaires mirobolants pour le plus grand bien de tous, à commencer par leurs actionnaires. Le problème, comme on l'a vu ces derniers temps, c'est que ces rémunérations sidérales ne sont pas réservées qu'à ceux qui réussissent, mais constituent une sorte d'assurance, de garantie, même pour ceux qui échouent, voire font carrément faillite. Ce qui ruisselle alors, c'est chômage et précarité pour tous. Et comment comprendre que la hausse de plus de 4000% de la rémunération moyenne des cadres dirigeants britanniques au cours des 30 dernières années soit due à une augmentation proportionnelle de leur capacité managériale? En 1960, le salaire moyen du directeur d'une grande entreprise américaine était 12 fois supérieur à celui d'un ouvrier. En 1974, 35 fois. En 1980, 42 fois. Et 10 ans plus tard, 84 fois. Cet accroissement exponentiel de la richesse des riches ne va pas pour l'essentiel à l'économie réelle, mais dans les hautes sphères de la finance où il se reproduit par simple transfert et il ne fait qu'aggraver les inégalités sociales. Les croyances ont la vie dure. Si la fable édifiante de la main invisible du marché pouvait avoir une certaine valeur au siècle de la révolution industrielle et faire admettre l'idée étrange que l'égoïsme de quelques pouvaient faire le bonheur de tous. Aujourd'hui, ce principe d'injustice vient justifier un accroissement des inégalités. Pour Zygmunt Bauman, le temps est révolu où ces inégalités étaient considérées comme un fait de nature, une nécessité anthropologique. Les riches devenant plus riches que parce qu'ils sont riches, ne devenant plus riches que parce qu'ils sont riches, et les pauvres plus pauvres uniquement parce qu'ils le sont. Sa démonstration est étayée par une kyrielle de chiffres qui donne le vertige, mais c'est contre la propension humaine à la servitude volontaire que s'élèvent ces analyses. Que chacun d'entre nous ait des capacités différentes, que les conditions sociales de leur épanouissement soient diverses, n'entraîne pas nécessairement que nous soyons par nature destinés à être pauvres ou riches. Il fut un temps où le déterminisme social pouvait distribuer des rôles intangibles, faire de la domination une réalité ontologique. Mais de même qu'on ne croit plus aujourd'hui à la divinité des monarques, les sacro-saintes lois du marché peuvent faire l'objet, au moins en pensée, d'un examen critique. Très tôt, la morale s'est mêlée à l'affaire, comme pour en rajouter dans l'acceptation et l'intériorisation des distinctions sociales. Mais la croyance dans l'inégalité naturelle des capacités de chacun avait pour corollaire une sorte de mesure au-delà de laquelle l'inégalité versait dans l'injustice et devenait à la fois non naturelle et condamnable. Les révoltes paysannes et ouvrières étaient souvent déclenchées par cet effet de seuil. Tel prélèvement ou corvée supplémentaire, telle dégradation des conditions de travail et la domination basculaient dans l'inacceptable. Aujourd'hui, relève Zygmunt Bauman, l'inégalité sociale s'est affranchie de cette contrainte morale. Elle s'est trouvée d'autres justifications, l'économie de marché, le fondamentalisme de la croissance. Et du coup, ayant abandonné l'argument de la naturalité, elle s'est également libérée de son contraire, le caractère non naturel de ses excès. Le sociologue rappelle que l'un des penseurs libéraux les plus influents du XIXe siècle, John Stuart Mill, prévoyait que la croissance devait conduire à un état stationnaire de l'économie, avec l'amélioration des conditions de vie, une sorte de fin de l'économie, comme on a pu parler d'une fin de l'histoire. Mais cet aboutissement ne signifiait pas la fin du progrès dans son esprit, bien au contraire, écrivait-il dans ses principes d'économie politique, il resterait autant de place que jamais pour toutes sortes de cultures intellectuelles et de progrès moraux et sociaux, autant de place pour améliorer l'art de vivre et plus de probabilité de le voir améliorer lorsque les esprits cesseraient d'être obsédés par l'art de s'enrichir. Une heureuse prophétie qu'il nous incombe de rattraper.
Zygmunt Bauman, les riches font-ils le bonheur de tous, cher Armand Collin. Et la revue du jour, c'est évidemment, forcément, à la revue France Culture Papier, voilà. Le numéro 10.
Déjà le numéro 10, avec un dossier sur les utopies, le rêve et les idées pour un monde meilleur. Vous vous souvenez, GB qui disait « L'utopie, il en faut, ça réduit à la cuisson », mais il est présent dans cette livraison par la voix de Jacques Doyon, qui avait réalisé avec lui l'adaptation de l'an 01. Vous vous souvenez, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Il se trouve dans le documentaire donc, d'Anaïs Quin et Ghislaine David pour La Fabrique de l'Histoire. On retrouve l'utopie également dans l'émission de Ruth Stegassi, Terre à Terre, qui reçoit les auteurs du livre-film Les Sentiers de l'Utopie, Isabelle Frémaux et John Jordan, qui sont partis à la rencontre de quelques-uns de ceux qui ont adopté des modes de vie alternatifs.
Voilà, la revue France Culture Papier numéro 10, le dossier sur les utopies, c'est publié chez Bayard et c'est bien sûr, comme on dit, dans tous les bons kiosques et toutes les bonnes librairies.